La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine de la Compagnie des auteurs consacrée aux plus français des écrivains américains du 19e siècle, Edgar Poe. Il est ce grand fantôme de la littérature américaine, cet écrivain qui a trouvé dans une langue de poète la manière de raconter l'étrange, et son univers sans pareil continue d'inspirer depuis sa mort en 1849 aussi bien les écrivains évidemment que les musiciens ou les cinéastes qui ont repris de multiples manières ces histoires décidément extraordinaires. Edgar Poe est un maître de la prose qui fascine par ses intrigues parfaites et l'effet qu'elle crée sur le lecteur, comme Henri Justin l'a expliqué dans son livre « Edgar Poe jusqu'au bout de la prose ». Il viendra ici demain pour nous en parler. Mercredi, nous serons avec Thierry Gilibeuf qui fait paraître, avec Christian Garcin, une nouvelle traduction des œuvres complètes de Poe, c'est aux éditions Phébus. Enfin jeudi, avec Jean-Pierre Nogrette, nous parlerons notamment du double assassinat dans la rue Morgue, ainsi que du roman « Les aventures d'Arthur Gordon Pym ». Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie d'Edgar Poe, nous sommes avec Isabelle Vieville-Degeorge. Elle a rédigé une biographie de l'écrivain aux éditions Léo Cher en 2010, après avoir publié une vie de Baudelaire aux éditions Page après Page. C'était en 2004. Baudelaire, dont on va évidemment beaucoup parler cette semaine, et dont je vous propose d'écouter dès à présent un extrait du portrait qu'il a fait d'Edgar Poe. Edgar Poe en martyr de la société. C'était dans sa préface aux histoires extraordinaires qu'il avait traduites.
Il y a dans l'histoire littéraire de vraies damnations. Des hommes qui portent le mot guignon écrit en caractères mystérieux dans les plis sinueux de leur front. L'ange aveugle de l'expiation s'est emparé d'eux et les fouette à tour de bras pour l'édification des autres. En vain leur vie montre-t-elle des talents, des vertus, de la grâce. La société a pour eux un anathème spécial et accuse en eux les infirmités que sa persécution leur a donné. Que ne fit pas Hoffmann pour désarmer la destinée, et que n'entreprit pas Balzac pour conjurer la fortune? Existe-t-il donc une providence diabolique qui prépare le malheur dès le berceau, qui jette avec préméditation des natures spirituelles et angéliques dans des milieux hostiles comme des martyrs dans les cirques?
Lecture par Jean Topard. Bonjour Isabelle Vieville-Degeorge.
Bonjour.
Alors de Baudelaire à Edgar Poe, il n'y a qu'un pas, c'est celui que vous avez d'ailleurs franchi. Vous étiez venu nous parler de Baudelaire, vous venez aujourd'hui nous parler d'Edgar Poe.
Oui, d'ailleurs que j'ai découvert autrement que par ce qu'on en connaissait à l'école et dans les lectures libres, en travaillant justement sur Baudelaire. J'ai l'impression de l'avoir un peu découvert dans l'œil de Baudelaire.
La première fois que Baudelaire avait ouvert un livre d'Edgar Poe, il avait été fasciné et aussi épouvanté, parce que Poe avait écrit 20 ans avant lui les phrases qu'il avait rêvé d'écrire.
Une commotion singulière, c'est exactement ce qu'il a dit, effectivement. Il était très troublé par... cette préfiguration, cette formulation avant lui de ce qu'il aurait pu vouloir dire. Cela dit, Baudelaire n'est jamais allé dans le courant de Poe pour autant.
C'est-à-dire
que Baudelaire est resté très étranger à la littérature d'Edgar Allan Poe dans ses contes. Baudelaire a fait très peu de prose et ses poèmes n'ont pas grand-chose à voir avec ceux de... S'ils ont à voir, c'est vraiment un niveau... On s'éloigne vraiment beaucoup, beaucoup.
Alors... tous les deux ont des points communs. Tout à l'heure, on avait l'impression d'une sorte d'autoportrait quand Baudelaire évoquait Poe rejeté comme ça par la société qui ne le comprenait pas. Ils ont eu tous les deux une vie extrêmement terrible.
Oui, et ils ont été tous les deux assez persécutés. Cela dit, vraiment, Baudelaire et Poe, c'est comme de part et d'autre d'un puits. Et leurs qualités et défauts sont un petit peu inversés. Et Poe, par exemple, est extrêmement subjectif, ce que Baudelaire n'est pas. Baudelaire est beaucoup dans l'universel et vraiment Poe est tout à fait... c'est vraiment l'archétype de la subjectivité portée à son point le plus fort.
C'est pourtant la subjectivité de Poe qui a séduit Baudelaire au point que lui-même pouvait quand même
se reconnaître. Mais parce qu'il y a cette espèce d'inversion. Il y en a un qui est diurne, l'autre qui est nocturne, un qui est universel, l'autre qui est subjectif. Et on peut dérouler la métaphore à l'infini.
Donc c'est une vie essentiellement désastreuse quand même que la vie d'Edgar Poe, une vie qui a été en permanence hantée par la mort. De nombreux morts autour de lui.
Oui, alors il a été marqué d'abord et définitivement par la mort de sa mère, effectivement, quand il avait 2 ans et demi, 3 ans. Sa maman est morte de tuberculose, c'était une actrice de théâtre, très très jeune. Et c'est la première des morts d'Edgar Allan Poe, qui va par la suite va perdre absolument tous ceux qu'il aime à l'âge de 24 ans de tuberculose et ou d'alcoolisme.
Alors on peut parler un peu de sa mère justement et raconter qu'elle est née en Angleterre.
Elle est arrivée à l'âge de 9 ans en 1796 ou 93, je ne sais plus très bien, aux États-Unis. Elle faisait partie de ces dynasties d'acteurs qu'on trouve beaucoup en Angleterre, c'est-à-dire des familles qui sont acteurs de père en fils sur plusieurs générations. Donc elle est arrivée à 9 ans, elle était déjà orpheline de père et elle était sur les planches tout de suite, elle est arrivée dans la foulée de sa mère et elle a joué, et d'emblée, elle a rencontré son public.
C'était une excellente danseuse,
oui,
chanteuse,
danseuse, elle avait un répertoire incroyable, elle a joué tous les rôles, elle a grandi littéralement sur scène, et c'était la petite chérie de l'Amérique à cette époque. Et à 11 ans, elle a perdu sa maman, à 15 ans, elle s'est mariée, à 18 ans, elle a été veuve, et ensuite, elle a rencontré le père de Poe, David Poe.
Alors qui, lui, avait un talent peut-être un peu moindre, disons.
Face de Muffin, l'appelait les critiques, pour planter le décor. Il avait effectivement...
Ça ne dit rien du talent, hein. C'est juste une remarque physique.
Non, mais il était systématiquement brocardé par le public qui ne l'aimait pas du tout, et visiblement, il était beaucoup trop raide. En fait, c'était un jeune fils de famille qui avait fui sa famille, les études de droit, qui était monté sur scène pour les beaux yeux d'Elisa et qui essayait de donner la réplique et qui visiblement n'y arrivait pas du tout. Et lui, à l'âge de 24 ans, alcoolique...
Il buvait pour pouvoir jouer parce qu'il avait le trac visiblement.
Le trac et peut-être pas seulement. Leur vie était déjà assez dure. Ils avaient déjà beaucoup de mal à trouver de l'argent parce que la vie de comédien n'est pas quand même une vie très aisée non plus. Et il est parti justement sur les routes chercher de l'argent et on ne l'a plus jamais revu. Donc déjà une trajectoire en suspens. Mais sans doute le petit Edgar était encore trop jeune, il avait 2 ans et demi, il avait un grand frère. Et par la suite une toute petite sœur qui est née suffisamment longtemps après le départ de son père pour que ça pèse ensuite sur la vie d'Edgar Allan et de la petite Rosalie.
Donc le destin de ce père, on ne le connaît pas vraiment.
On ne le connaît pas.
Parce que vous dites qu'on connaît beaucoup la vie d'Edgar Poe. Ce qui ne nous est pas connu dans la vie d'Edgar Poe, c'est Edgar Poe lui-même. Il y a un mystère sur sa personnalité à lui et son moi profond.
Personnellement, quand on regarde les lettres d'Edgar Allan Poe et quand on suit ce qu'il écrit, il nous laisse, il dit qui il est et il nous laisse des petits cailloux à chaque moment. Poe est né dans un théâtre avec une maman comédienne qui naissait, mourait, ressuscitait régulièrement, qui jouait tous les rôles.
Dont il a fait un mythe.
Et dont il a fini par faire un mythe. La tuberculose est très spectaculaire. On a les légendes deviennent complètement émaciées. Ils ont les joues extrêmement rouges. Ils ont des grands yeux extrêmement brillants. Et par exemple, on peut retrouver l'image du regard, des yeux, qui traverse absolument toute l'œuvre d'Edgar Allan Poe, que ce soit dans les contes, que ce soit dans les poèmes, que ce soit dans ses lettres. C'est quelque chose. Le regard immense et dévorant le poursuit tout le temps et toute sa vie. Pour revenir à ce que vous disiez sur sa personnalité, moi j'ai l'impression que le point de départ est vraiment là, dans la mort de sa mère, de ce petit garçon. Quand on a un petit garçon de 2 ans et demi, c'est le membre vif d'une femme, d'un corps qui n'est pas à lui en fait. Et quand sa mère meurt, lui n'est pas encore séparé de sa mère. Et on a un peu le sentiment que cette mort le capte et lui assigne déjà un point et crée une déchirure originelle.
au point que les femmes sont évidemment présentes d'une manière spéciale dans l'œuvre d'Edgar Poe. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait Marie Bonaparte, qui est une pionnière de la psychanalyse en France et qui en parlait, c'était il y a bien longtemps déjà, dans l'émission Tribune de Paris en 1947.
Ce qui est très frappant dans l'œuvre de Poe, ce qui m'a attiré vers la recherche des contextes de son enfance, ce sont les personnages féminins. Ces personnages toujours à la fois éthérés et macabres, qui hantent son œuvre, tels que Morella, Ligeia, Lady Madeleine dans La chute de la maison Hoche, ou bien Bérénice. Dans ces contes, le poétique héros est d'abord présenté comme l'époux, le frère ou le cousin, le fiancé d'une femme extraordinaire, dans un lieu lointain, hors l'espace et le temps. Et alors l'héroïne se met tout d'un coup à dépérir d'un mal singulier, qui ressemble d'ailleurs fort à la tuberculose, à la phtisie. Cela me donne l'idée de rechercher s'il n'y avait pas eu dans l'enfance de Poe une femme semblable. Car je ne le savais pas alors, je ne connaissais pas du tout la biographie de Poe. Et je découvris en effet que c'était sa propre mère. Sa propre mère qu'il perdit quand il avait trois ans à peine. Ça semble extraordinaire évidemment aux profanes qu'une mère perdue à 3 ans puisse laisser de tels souvenirs dans l'inconscient, mais il faut distinguer entre mémoire consciente et mémoire inconsciente.
La compagnie des auteurs sur France Culture, vous pensez, comme Marie Bonaparte, Isabelle Viéville de Georges, qu'au fond, c'est sa mère qui a donné à ses textes cet air de féerie, alors que Poe ne cesse de raconter des histoires sinistres. Quelle est la place de cette femme dans l'œuvre, selon vous ?
La place de sa mère dans l'œuvre ? Je pense que Poe a été tranché en deux par la mort de cette mère. Et je pense que il me semble que chez Poe, il y a une dilapidation et une effusion perpétuelle. C'est comme s'il était... Il a été tranché, il a été abandonné, et puis ensuite il est réadopté, et puis ensuite, par vagues successives, il perd tous ceux qu'il adopte, et il se retrouve abandonné perpétuellement. Et Poe n'arrive jamais, Poe, à partir de la mort de sa mère, on dirait qu'il part à la conquête de son intégrité, et une intégrité qu'il n'arrive jamais à retrouver. Mmh. Et j'ai le sentiment que toute son écriture, tout le mouvement, c'est un homme d'une volonté absolument incroyable, avec une lucidité, c'est vraiment un cérébral, avec une lucidité implacable, et bizarrement, qui se condense uniquement dans la littérature. Tout ce qui est réalité, c'est le lieu de ses désastres, le lieu où il perd la face, le lieu où il est abandonné. Et chaque fois qu'il arrive à se reconstituer, c'est dans l'écriture. Il y a une espèce de mouvement d'encerclement, et pour se tenir et pour...
C'est le mouvement de pendule qui, pour vous, résume la vie d'Edgar Allan Poe.
Oui, la réalité et l'adversité, c'est le pendule. C'est le temps qui descend et qui, à chaque fois, le tranche en lui enlevant les jambes dont il s'est entouré pour essayer de reconstituer une carapace pour avancer.
Puisqu'après la mort de sa mère, il est donc recueilli par un certain John Allan, d'où d'ailleurs le nom d'Edgar Poe, qui est transformé en Edgar Allan Poe. Enfin, est-ce qu'il est vraiment recueilli par lui ou plutôt par sa femme? Parce que avec John Allan, ça va pas toujours bien se passer.
Exactement. Et d'ailleurs, le nom d'Allan ne se glisse entre Edgar et Poe que lorsque Allan a définitivement fermé sa porte à Edgar Poe et ne veut plus rien avoir à faire avec lui, jamais. D'ailleurs, il s'est remarié et il a des enfants, d'autres enfants légitimes, et il ne veut plus entendre parler d'Edgar Poe.
Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Parce qu'à un moment donné, le fils semblait en tout cas aimer beaucoup son père adoptif, peut-être vouloir précisément devenir réellement son fils.
Il a semblé le vouloir au moment de la mort de Frances Allan. Frances Allan, donc la femme de John Allan, a récupéré Edgar Allan Poe au moment de la mort de sa mère. Les gens se sont partagés les enfants, en fait. Et Frances Allan avait besoin d'un enfant. Elle était stérile, très probablement, puisque John Allan avait des enfants illégitimes par ailleurs. Et elle a pris Edgar, et John Allan a semblé jouer le jeu au départ. Il semble que dans le mariage, John Allan avait l'air d'être relativement une brute, à tous égards par ailleurs. C'était un négociant, c'était un homme assez d'une brutalité assez oblique, assez passif-agressif. Et très vite, on a l'impression que Edgar était un petit peu comme s'il avait acheté un chien de compagnie à sa femme. Mais tant que sa femme est encore debout, ça va à peu près. Et puis à un moment donné, ses infidélités deviennent notoires, ce qui déjà commence d'ailleurs à créer les premières humiliations sociales d'Edgar Allan Poe, qui conditionnent déjà le mouvement de pendule qui lui est propre et intérieur cette fois-ci, qui à chaque fois qu'il est humilié, de reprendre le dessus et d'essayer de dominer. C'est quelqu'un qui veut ne jamais être dominé. C'est quelque chose qui est premier chez lui. Et donc John Allan, au fur et à mesure que Frances Allan décline, John Allan devient de plus en plus dur avec lui et lui donne de moins en moins d'argent. Et jusqu'au jour où sa femme meurt. D'ailleurs, il cache la maladie de sa femme à Edgar Poe, qui à l'époque est engagé dans l'armée. Et au moment de la mort de sa femme, il y a comme une espèce de rêve, de mirage, de réconciliation entre les deux. Mmh. Et Poe, qui à ce moment-là se trouve assez démuni, qui n'a plus rien, voudrait quand même garder ce lien avec ce qu'a été sa vie jusque-là. Et il propose à son beau-père d'intégrer West Point à ce moment-là. Et il arrive à l'embarquer dans cette démarche. Mais très vite, John Allan se détourne. Il trouve que le délai, finalement, d'incorporation tarde trop. Et donc, mais ils n'auront jamais avec Edgar Poe ça qui est terrible. C'est-à-dire, il ne lui dit rien, puis il lui laisse tomber quelques dollars, et puis il ne dit rien non plus pendant longtemps. Et il n'y a jamais de coupure franche.
Là, pour le coup, ça rappelle un peu Baudelaire et Hopic.
Absolument, absolument. Sauf qu'effectivement, Hopic était très carré dans sa brutalité. Alors que John Allan est vraiment, très très oblique, il n'y a pas d'autre mot. Les choses ne viennent, sont jamais frontales et elles sont vraiment amenées par la bande.
Alors il l'a emmené tout de même en Angleterre, parce que John Allan était, comme vous le disiez, négociant. À un moment donné, il a voulu s'implanter là-bas. Du coup, il y a eu quand même un moment anglais qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans les nouvelles de Edgar Poe.
Et dans la pension Bromsby aussi, qui est dans William Wilson. Tout à fait, ils sont rentrés en Écosse et en Angleterre. Et Poe a été en pension. Il a été extrêmement malheureux. Il a beaucoup souffert, à tel point que ses parents ont été obligés de le reprendre avec lui. Ce qui laisse rêveur, parce que les pensions de l'époque n'étaient pas tellement connues pour renvoyer les enfants qui avaient des états d'âme. Surtout quand on sait à quel âge ils y allaient à l'époque. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des enfants de 4 à 6 ans très facilement. Donc il en a gardé un très 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 mauvais souvenir.
C'est tout de même un enfant qui commence par être brillant.
Oui, tout à fait. Il est brillant. Et un peu comme Baudelaire d'ailleurs, il adore mystifier son entourage.
C'est un menteur, affabulateur.
Alors lui, c'est un véritable menteur, un affabulateur, un mystificateur, et il le revendique, puisqu'il dit « le monde sera ma scène ».
C'est une référence à ses parents, probablement.
Oui, mais c'est... En fait, il dit juste, en l'occurrence, il dit juste la vérité. Il a besoin constamment d'un regard braqué sur lui pour exister, et si plus personne ne le regarde, il meurt. Et c'est ce qui est très frappant chez cet homme qui, par ailleurs, est extrêmement brillant, lucide et implacable. On a vraiment l'impression d'une façade, et derrière, il est en proie à des terreurs archaïques, à c'est presque des fantasmes de dévoration, de mutilation, d'anéantissement. Et c'est très très frappant dans sa correspondance notamment.
Alors ça fait penser évidemment à ce que vous dites l'école de Edgar Allan Poe à sa nouvelle William Wilson, qui se passe un peu plus tard, ça se passe au moment de l'université. Il va d'ailleurs aller à l'université, son beau-père va lui laisser y aller pendant une année seulement. Et donc dans William Wilson, il raconte cette espèce d'atmosphère de jeu, de débauche, et déjà un peu de terreur. Est-ce que, parce qu'on a dit que c'était la nouvelle la plus autobiographique de Poe, est-ce que vous pensez qu'on peut lire justement quelque chose de sa vie dans William Wilson, cette nouvelle ?
Oui, moi je pense que le dédoublement notamment, moi il me semble
que c'est c'est une histoire de jumeaux,
oui.
Enfin pas de jumeaux, mais enfin de deux garçons qui se ressemblent tellement qu'ils pourraient être la même personne au fond.
Je crois qu'il y a un moment dans sa vie où Poe voit William Wilson de dos continuer de mener sa vie terrestre pendant que lui est réfugié dans son écriture. À la toute fin de sa vie, notamment quand il rencontrera cette espèce d'histoire absolument invraisemblable avec Sarah Helen Whitman et Nancy Richmond, témoigne bien de ce dédoublement. Mais effectivement, là, La période de l'université a été une période terrifiante pour Edgar Allan Poe, qui a été donc envoyé là-bas avec très très peu d'argent. Or, c'était donc une toute nouvelle université et...
Très bourgeoise.
Mais non, alors justement, c'est toute l'aristocratie terrienne du Sud, très très turbulente. Donc les étudiants venaient à cheval avec leurs esclaves, avec leur mobilier, avec leurs valets. Ils débarquaient, ils lançaient des bouteilles d'urine sur les profs, ils mettaient les vaches et le mobilier sur le toit. Ils arrivaient, ils tiraient au pistolet, ils jouaient, ils se battaient. Et Poe a été absolument terrifié, mais terrifié par une scène qui s'est passée devant sa chambre, la chambre numéro 13 d'ailleurs, où deux hommes se sont battus et un a arraché un morceau de chair gros comme sa main à l'autre.
Alors, peut-être une part d'exagération.
Peut-être une part d'exagération, mais ça fait partie, justement, ça le renvoyait à ses fantasmes de mutilation.
Un mot peut-être sur le rapport d'Edgar Poe à son pays, les États-Unis, avec un extrait d'un texte de l'écrivain Julien Gracq.
On peut comprendre que dans les États-Unis de 1840, le poète ne se soit pas trouvé particulièrement à l'aise. Dans la littérature américaine, à laquelle il reste radicalement hétérogène, Poe représente un emprunt à l'état pur. Le fond du paysage mental qu'il promène sans jamais l'y transplanter dans les savanes vierges de souvenirs des Carolines, château des Apennins du portrait ovale, collège croulant sous les lierres de William Wilson, vieux livres de la cabale, chartes de navigation immémoriales et effacées, croulent sous un poids fabuleux de légende, ajoutent à l'éloignement dans le temps le recul supplémentaire du total dépaysement. Comme, avant de les voir, c'est à leur odeur qu'on reconnaît du large l'approche des îles fortunées, ce qu'il saisit d'un battement de narines quand l'Europe n'en a pas encore pris conscience, ce que le vent trie pour lui et lui apporte, c'est le parfum même, l'odeur troublante et vireuse de l'exquise pourriture européenne. Tout comme au même moment, le temps ayant achevé la distillation de ses pures essences, Baudelaire, Huysmans peuvent sentir pour la première fois après 15 siècles comme on respire un flacon débouché, ce que sentait exactement la décadence latine, on dirait que Poe, de l'autre rive, apporte à saisir l'odeur intime de l'Europe fléchissante sous le poids de ses souvenirs et de ses rêves, le discernement maniaque d'un exilé qui hume dans le vent l'odeur de sa patrie.
La compagnie des auteurs sur France Culture, qu'est-ce que vous retenez de cet extrait de texte Julien Gracq qui est issu de son volume Préférence sur ce rapport Amérique-Europe ?
Cette phrase de Poe qu'il dit au sujet des contes gothiques, la terreur ne vient pas d'Allemagne, mais elle vient de l'âme. Et parallèlement, je crois que Poe a fait énormément pour toute la littérature américaine et prendre une forme d'indépendance vis-à-vis des littératures aussi européennes qui traduisaient ses textes et ne lui donnaient pas un centime par ailleurs, et aussi la protection du droit d'auteur. Par rapport à ce parfum de pourriture plus exactement, oui, je vois ce qu'il veut dire. En même temps, moi, je trouve que Poe ne parlait que de lui-même.
C'est aussi un passeur dans l'autre sens, parce que après la rupture avec John Allan, donc Poe se retrouve livré à lui-même. On va raconter qu'il va essayer de reconstituer une famille qui soit une famille pour lui. Mais il va aussi être journaliste, et même un excellent journaliste. Et il va faire connaître, alors pas seulement ça, il fait des articles sur tout un tas de sujets, mais il va faire aussi connaître un peu la littérature européenne aux États-Unis.
Aussi, oui, effectivement. Et quand il entre sur la scène du journalisme, il entre, et ce n'est pas gratuit non plus, sous la plume du critique. C'est-à-dire le critique, c'est quand même celui qui ne peut être jugé, mais qui va juger les autres.
Ça lui ressemble bien ?
Ça lui ressemble tout à fait. Et il avait tout compris.
Il était correcteur aussi.
Et il a été correcteur.
Il paraît qu'il était sans égal comme correcteur d'épreuve.
Oui, ça c'est... C'est Willis qui a dit ça, je crois, d'ailleurs. Et effectivement, il a tout compris de ce qu'était le marketing et la publicité. Et c'est pour ça que les propriétaires de journaux l'ont souvent engagé, réengagé, malgré parfois des périodes d'alcoolisme assez terribles. C'est qu'il Il suffisait qu'il commence à lancer entre guillemets une guerre. On l'appelait l'Indien, qui scalpe ses victimes et ne s'arrête que quand le sang coule.
Oui, ces critiques étaient dites au Tomahawk.
Au Tomahawk, exactement. Et James Lowell, qui a été le premier à faire un essai sur Poe de son vivant, a dit qu'il aurait pu être le plus grand des critiques s'il n'avait confondu son encrier avec sa fiole d'acide prussique. Il était terrifiant. Et donc, les tirages augmentaient de façon démente et quand Poe trouvait que la polémique tardait un petit peu, il n'hésitait pas à intervenir et en rajouter sous des pseudonymes divers et variés, voire à se contredire lui-même pour créer à chaque fois et reculer à chaque fois les limites de la critique.
On a le droit de se contredire, hein. C'est un des droits de l'homme
tout à fait.
Que revendique Baudelaire.
Oui.
Bon alors, évidemment, c'est quelqu'un qui est très exigeant avec les autres, avec les textes qu'il lit, mais c'est quelqu'un qui est aussi très exigeant avec ses propres textes. Comment est-ce qu'on pourrait définir un peu son intention quand il écrit des contes? Je crois qu'il cherchait distraire, surprendre, et en même temps, vous le soulignez bien, toujours faire en sorte qu'il y ait une unité dans ces contes-là. Comment est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de cet aspect-là des choses?
Alors, il y a plein d'angles. Alors d'abord, pour aller sur l'unité, effectivement, Poe revendique l'unité des faits. Et souvent, une de ses principales critiques à l'égard des autres, c'est que il y a un effet, oui, mais il n'est pas suivi. Il estime que tout dans l'écriture de la prose, mais même de la poésie et de toute œuvre de fiction, doit être soumis à l'unité des faits, au détriment même, éventuellement, de la clarté. Il préfère l'hermétisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un petit peu ce que j'avais retrouvé dans ce moque de Bruno de la Brioche
dont on entendra tout à l'heure la chronique
sur la chanson d'Apollinaire, c'est-à-dire ce que cherche Poe à créer, et je pense que peut-être il a été le premier et le précurseur, c'est effectivement plonger le lecteur dans une sorte d'état de transe, puisque lui-même cherchait son imagination dans l'hypnagogie, l'état d'hypnagogie entre veille et sommeil, et il cherche à ce qu'on soit plongé dans cet état de transe parce que pour lui la beauté et la vérité est extraterrestre et dans une dimension qui échappe à notre monde. Et on ne peut l'apercevoir que quand on est dans cet état second. Et c'est pour ça que tout doit être systématiquement orienté jusqu'aux allitérations dans les contes et dans la prose. Tout doit être soumis à cet effet. Mais les contes de Poe sont surinvestis de toutes ses intentions et de sa volonté hallucinante et, on pourrait même parfois dire, démente. Poe commence comme conteur. Alors, il y a un versant parodique aussi à ses contes, des parodiques de tous les grands auteurs de l'époque.
Que peut-être on trouve moins quand on le lit aujourd'hui, parce que forcément,
il y en a beaucoup qui ont disparu aussi, puis on les connaît moins.
Des références.
Oui, tout à fait. C'est des références un petit peu pointues. Il y a cet aspect-là, mais pas uniquement. Poe commence à écrire des contes après la mort de son frère, qui l'a bouleversé et qui l'a tranché encore un petit peu plus profondément. Or, Poe et son frère écrivaient des contes ensemble et ils avaient fabriqué un avatar qui était fait de leurs deux noms cryptés. C'était Edgar Léonard, en l'occurrence. Et à partir de là, quand son frère meurt en 31, c'est là que Poe va écrire son premier conte, le cheval de Metzengerstein. Metzengerstein, tout simplement.
Qui raconte un cheval qui surgit d'une tapisserie familiale.
Voilà. Et ce qui est très intéressant, le cheval est psychopompe, il passe d'un monde à l'autre. Et je pense que c'est ce que Poe va faire petit à petit dans toute sa vie. Il substitue la réalité dans le monde de l'écriture, mais au-delà de ce qu'un écrivain normal fait. Avec une puissance, pour moi, à ce jour inégalée. Et ça commence, tous les noms sont complètement cryptés. Et on retrouve toujours... Il incorpore déjà les siens dans tous ses contes. Et ça ne va faire que croître et embellir. Et il va assigner à certains de ses contes des destinations particulières. Et pour moi, il finit à la fin par s'y transmuter entièrement.
Et aussi, dans les objectifs de Edgar Poe, il y a une espèce de remise en cause de la science positive. Et cette envie de montrer qu'au fond, la réalité, elle est surtout dans la transcendance.
Absolument.
Elle
est autre part. Et d'ailleurs, c'est avec les contes de la ratiocination, avec Dupin. Dupin qui est un mathématicien et qui a le regard vitreux, toujours ses regards. Et justement, c'est lui qui peut se livrer à la spéculation poétique.
Donc Dupin, c'est
donc un poète, en
le
fait.
Héros.
Le héros, pardon. Oui, c'est le héros et l'enquêteur.
L'enquêteur.
Et parce que justement, il ne voit pas dans la réalité... il peut voir au-delà et il peut se livrer à la spéculation poétique qui seule va l'amener à la vérité, et ce qui permet à Poe de lui faire dominer les sciences dites logiques, modernes, brutes.
Il y a aussi un essai qui est resté célèbre, Eureka, d'Edgar Poe, c'est Eureka. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible, cet essai, Eureka.
En même temps, c'est une aventure.
C'est une aventure de lecture.
Ah oui.
Oui. Alors là, c'est quoi ? Il s'agit de faire quoi avec Eureka ?
De se prouver Dieu lui-même et de donner la constitution d'un système qui, que ce soit à travers ses essais, ses articles, ses contes et ses poèmes, vise à recréer un monde refuge pour lui. Dans Eureka, il se prouve Dieu lui-même. Il préfigure en passant le Big Bang qui sera découvert 2 siècles après.
Et il a l'intuition du
Big Bang. Et
pour quelqu'un qui n'était pas scientifique,
très très clairement, pour quelqu'un qui n'était pas scientifique. Et ça, c'est le génie de comme Baudelaire qui préfigure toute la psychanalyse et Poe qui préfigure le Big Bang. Ça donne raison en tout cas à la théorie de Poe, comme quoi la spéculation poétique peut arriver aussi loin finalement que les sciences dites dures.
Mais oui, il faut qu'on soit tous des